Je voudrais revenir ici sur l'un des lieux communs les plus résistants, les plus tenaces de la critique machiavélienne, à savoir, si on le dit avec les mots de l'historien allemand Friedrich Meinecke, la question de la séparation de la politique et de la morale, ou si on le dit avec les mots du philosophe idéaliste italien Benedetto Croce, la question de l'autonomie de la politique. Autonomie de la politique et séparation de la politique et de la morale, donc, dont j'aimerais pouvoir dire, au vu de l'analyse du chapitre du Prince sur lequel je vais m'arrêter désormais, qu'elles peuvent être largement, évidemment, remises en question. Nous arrêterons donc sur un des chapitres du Prince, qui n'est peut-être pas le plus commenté des chapitres du Prince, mais qui, nous essayerons de le voir, a un caractère particulièrement significatif, notamment sur la question de la morale en politique, du bien et du mal en politique, de ce que Machiavel nomme avec un mot rare dans sa bouche, dans le titre de ce chapitre, les scélérates. Le titre du chapitre étant « De ceux qui par des scélérates parvinrent au principat ». Nous sommes donc au chapitre 8 et on pourrait penser au terme du chapitre 7 qui le précède et qui développait la grande icône politique du prince, à savoir César Borgia, en reprenant le parcours de Borgia jusqu'à l'accession au principat et jusqu'à sa chute par la suite. On pourrait penser donc qu'à la fin de ce chapitre 7, le contrat de lecture passé par Machiavel lors du chapitre 1 a été rempli, que le texte pourrait même s'arrêter là. Ce ne sera pas le cas, évidemment. Nous allons avoir des chapitres qui vont s'enchaîner jusqu'au chapitre 26. Et le premier chapitre qui, en quelque sorte, nous déroute par rapport au programme initial, c'est justement ce chapitre qui n'était pas prévu dans le plan initial sur les scélérates, sur ceux qui parvinrent au principat par des scélérates, c'est-à-dire pas par la fortune, pas par la vertu, pas par des armes d'autrui ou par les armes propres, mais par les scélérates. Ce chapitre nous sert donc, en quelque sorte, à ne pas faire retomber cette tension théorique qui avait été posée dès le premier chapitre, avec une efficacité rhétorique qui fait toute la force de la langue machiavélienne et de l'organisation de ces textes. Et ce chapitre 8, donc, va nous présenter, dans un parallèle plutarquien, deux exemples. Deux exemples qui sont ceux d'Agathocle, un exemple ancien, tyran de Syracuse, et d'Oliverotto da Fermo, Liverotto da Fermo, comme dit Machiavel, un prince moderne, lui, qui, pendant quelques mois, put prendre le pouvoir dans sa ville natale de Fermo. On pourrait croire à cet égard que l'exemple va développer justement de façon plutarchienne la question des vertus respectives des deux personnages. Il n'en sera rien. Mais avant de nous attarder sur ces exemples-là, je voudrais revenir sur une question, c'est savoir comment ce chapitre 8 peut nous dire quelque chose de l'organisation même de la matière du prince. Pour la première fois dans le texte de Machiavel, ce problème essentiel du rapport entre la politique et le bien et le mal est posé dans ce chapitre. Pourquoi est-il posé dans ce chapitre particulièrement? Parce que ce chapitre est en quelque sorte auto-engendré par le chapitre 7 consacré à Borgia. Comme si l'exemple borgien conduisait Machiavel à se dire « bon, quand même, cet homme est vertueux, mais ce qu'il a commis n'est peut-être pas tout à fait louable. Il faut qu'on pose la question quand même des cruautés. Il faut qu'on pose la question de la place des cruautés et des scélérates dans la réflexion politique. Il faut donc qu'on essaye de comprendre ce qui sera aussi la matière, par exemple, du chapitre 17 du Prince, notamment, du chapitre 18 aussi, du chapitre 19. Quels peuvent être les usages, les temps, les ordres de la cruauté et de l'exercice de ce qui est communément qualifié de mal. À cet égard, le chapitre 8 présente une des caractéristiques de l'écriture du Prince. La structure de l'énonciation dans le Prince est bien loin de s'offrir au lecteur comme celle d'un traité de philosophie politique classique, déroulant selon un programme attendu et annoncé initialement au lecteur, une argumentation progressive, exposant tous les attendus de la question posée, dans tous ses tenants et aboutissants. Il existe une dynamique propre, interne au texte, et dont on peut d'ailleurs postuler ainsi qu'il fut écrit rapidement et d'un trait, ce texte. Le texte se déploie dans cette perspective selon une logique non linéaire, faite aussi de digressions, d'allées et venues, d'approfondissements successifs, qui ne s'insèrent pas toujours dans un plan rigoureusement établi, mais semblent plutôt relever parfois de ce que l'on pourrait nommer une forme de dialogisme interne, où les questionnements introduits naissent des questions que se pose l'auteur à lui-même au fil de son argumentation et des apparentes contradictions, aberrations, apories qui surgissent au détour des exemples développés. De ce fait, il existe dans Le Prince des blocs qui ne sont pas autonomes, bien sûr, mais qui restent distincts, la cohérence de l'argumentation étant limitée aux frontières de chacune de ces sous-parties. Et en l'occurrence, ce chapitre 8 fait bloc avec les deux chapitres qui précèdent, le chapitre 6 et le chapitre 7. De fait, dans le célèbre chapitre sur Borgia, le chapitre 7, Machiavel ne pose pas seulement le problème de la prise de pouvoir, comme semble l'annoncer le titre, par les armes d'autrui et la fortune. Il traite aussi, et peut-être surtout, de la nature de l'équilibre et des jeux de détermination entre la virtu, la fortune et les armes. Le tout dans le cadre historique des necessita, des nécessités, des tempia versi, des temps contraires de la guerre. De même, le chapitre 6 avait déjà souligné à la fois l'importance de l'exemple dans le raisonnement, c'est la première grande question de méthode posée dans Le Prince au début du chapitre 6, et celui de l'usage d'une force autonome par les fondateurs d'un nouveau régime. Le chapitre 8 va donc présenter les deux exemples que j'évoquais pour creuser les questions qui avaient été posées au chapitre 6, la question de l'exemple et de la fondation, et au chapitre 7, cet équilibre complexe entre vertu, fortune, armes et necessita. Ces deux cas de figure servent donc, j'entends parler évidemment d'Agathocle et d'Olivero da Fermo, l'exemple ancien, l'exemple moderne, ces deux cas de figure servent d'une part à illustrer, a contrario, la spécificité positive et la complétude majeure du modèle de Borgia. Les deux exemples qui sont développés dans le chapitre 8 sont en effet irrecevables pour Machiavel, par opposition à Borgia, qui est évidemment un modèle dont il ne cesse de louer l'exemple. Mais le chapitre 8 a aussi un autre objectif, celui d'établir des distinctions nécessaires entre les différents types de cruauté, ce qu'il appellera à la fin du chapitre les cruautés bien employées et les cruautés mal employées. De fait, d'ailleurs, Olivero da Fermo disparaîtra de la galerie des exemples machiavéliens au-delà de ce chapitre. Ce qui est très intéressant à noter parce qu'il y a chez Machiavel, au contraire, une tendance à reprendre régulièrement les exemples qui lui sont chers. On peut penser à Borgia, évidemment, mais aussi, par exemple, à Jules II. Olivero da Fermo, de ce point de vue-là, est un peu une étoile filante, un apax dans la galerie des exemples machiavéliens. Quant à Agathocle, s'il sera repris dans le texte des discours comme exemple, c'est de façon beaucoup plus secondaire, comme un modèle de trompeur ou d'usurpateur qui s'appuie sur l'armée. On sait au contraire que Borgia, lui, est fièrement proclamé sans embâge comme l'exemple à suivre, non seulement à la fin du chapitre 7, mais aussi tout au long du chapitre 17, quand il s'agit justement de faire la part de la pitié et de la cruauté en politique. Les exemples d'Agathocle et d'Oliverotto se présentent donc comme subsidiaires au grand exemple borgien. Ils sont traités d'ailleurs beaucoup plus brièvement. Dans le cadre du traitement de la place des scélératesses et autres cruautés pour la prise et le maintien du pouvoir politique. Ces deux-là relèvent d'une voie non seulement scélérate, mais, nous dit Machiavel, abominable, néfaria. Cet adjectif, néfaria, est intéressant dans la mesure où il est employé pour la seule et unique fois dans ce chapitre 8. C'est un adjectif plus fort que scélérata. Il introduit la problématique de l'excès dès l'ouverture de ce chapitre 8. Machiavel n'en adopte pas pour autant une posture de jugement moral sur ces deux princes évoqués. Ils sont là pour être des exemples, mais sans aucune modalisation à la César Borgia, car ils précèdent, illustrent et entraînent, avec et après eux, les derniers paragraphes du chapitre 8, où seront introduites les conclusions théoriques d'ordre général. Si on compare cette structure à celle du chapitre 7, où, au contraire, le récit était précédé par le discours théorique, le chapitre s'achevant sur la conclusion du récit, on relève ainsi dans le bloc 7-8 une sorte de structure en chiasme, discours-récit puis récit-discours, qui affirme le lien d'interdépendance entre les deux chapitres et les deux énoncés théoriques qui s'avèrent donc complémentaires. De ce fait, le chapitre 8 est accroché au chapitre 7, mais en même temps, il n'en reste pas moins qu'il ouvre, quant à lui, dans l'exposition, qu'il ouvre à une nouvelle catégorie autonome, celle des princes qui arrivent au pouvoir ni par la fortune, ni par la vertu. En effet, si d'un côté, dans la série des cas où un homme privé devient prince, les figures d'Agathocle et d'Oliverotto semblent ne pas avoir de véritable autonomie, de l'autre, la taxinomie machiavélienne fait relever Agathocle et Oliverotto d'un autre cas de figure étranger à l'espace historique de la virtù. On semble avoir confirmation de cela quand, à la fin du passage sur Agathocle, Machiavel souligne très explicitement, dans une sorte de leçon, que celui-ci ne prit donc le pouvoir ni par la fortune, ni par la vertu. Il dit à cette occasion, on ne peut non plus appeler vertu, tuer ses concitoyens, trahir ses amis, être sans foi, sans pitié, sans religion, et de telle façon peuvent faire acquérir le commandement, mais non la gloire. L'exemple d'Oliverotto semble confirmer ce jugement péremptoire sur Agathocle, puisque jamais Oliverotto n'est qualifié de vertueux. Dans une dernière phrase, relatant la façon dont Oliverotto et Vitellozzo Vitelli furent étranglés par les hommes de César Borgia, Machiavel introduit même une incise lapidaire dans laquelle il souligne cruellement que Vitellozzo avait été le maître d'Oliverotto en vertu et scélératesse. La seule vertu d'Oliverotto serait donc ainsi une fausse vertu dévoyée qui ne relève que de la scélératesse. Les choses ne sont pourtant pas si simples. De fait, Agathocle ne fit donc pas preuve des vertus d'un homme excellent, mais pourtant, il possédait quand même les vertus d'un excellent capitaine. De même, dans une tentative de renomination explicite qui est un indice manifeste d'un flottement du concept, Machiavel assure qu'on ne peut appeler vertu ce qu'il commit. Rappelons la citation précédente. Mais pourtant, il souligne plus haut, au début du récit exemplaire, qu'Agathocle, s'il eut bien une vie scélérate, accompagna ses scélératesses d'une grande vertu de l'esprit et du corps. Donc dans une sorte de mélange un petit peu vertigineux des usages de la vertu qui est lié à celui des usages de la scélératesse. On le verra plus loin. Les conclusions de ce même chapitre 8 sont marquées en outre par une curieuse incise machiavélienne dans laquelle celui-ci, feint de se demander, je cite, « si du mal, il est loisible de dire du bien ». La remarque est évidemment chargée d'une subtile ironie, mais elle ressemble aussi à une sorte de restriction, de réflexion intérieure que l'auteur expliciterait comme s'il se parlait à lui-même. Par ailleurs, si l'on revient à la citation qui comprenait la référence aux vertus d'Agathocle, on constate que tout ce que paraît reprocher Machiavel à Agathocle relève peu ou prou d'excès que César Borgia a aussi commis. Rappelons-nous, tuer ses concitoyens, trahir ses amis, être sans foi, sans pitié, sans religion, on pourrait le rapporter aussi à César. On a l'impression ainsi que l'auteur met en place dans ce chapitre un jeu quelque peu vertigineux, comme je le disais tout à l'heure, sur les emplois de la vertu, dont on peut se demander si elle ne qualifie pas a posteriori l'introduction du chapitre comme une sorte de manipulation rhétorique, qui tiendrait compte de la doxa, on ne doit pas quand même tuer ses concitoyens pour prendre le pouvoir, en lui accordant le minimum de respect nécessaire. On ne peut quand même pas dire que tuer, trahir, renoncer à toute pitié, à toute religion, soit le fait d'un homme vertueux. Au début, Machiavel nous annonce « Je vais vous parler d'hommes qui n'ont pas pris le pouvoir par leur vertu ni par la fortune. » Mais comme par ailleurs, il était énoncé dans le chapitre 1 que les principats nouveaux s'acquièrent soit par la vertu, soit par la fortune, il se voit dès lors contraint, logiquement, de créer de toutes pièces une troisième catégorie. Mais dans le même temps, il évoque la vertu d'Agathocle, on l'a vu, et les actions de ces deux exemples, Agathocle et Oliverotto, qui en l'occurrence ressemblent fort à celles de César Borgia. Le complexe mécanisme que je viens d'essayer de décrire a un but. À partir d'un paradoxe apparent, Borgia, Agathocle et Oliverotto furent tous trois cruels, mais seul le premier fut vertueux. Le chapitre 8, va servir en fait à distinguer deux types de scélératesse et de cruauté référés au même cas de figure conjoncturelle, à savoir la prise du pouvoir et sa consolidation. Tout ensemble, Machiavel fait semblant de prendre des précautions par rapport aux reproches qu'on pourrait lui faire. Il manifeste son ironie à l'égard de ces postures communes, de ces lieux communs fondés sur une définition abstraite et ahistorique du bien et du mal, du vice et de la vertu. Et enfin, troisième point, il fait preuve d'une fausse ingénuité manifeste et introduit une interrogation rhétorique en constatant qu'en définitive, les scélérats comme Agathocle peuvent se maintenir au pouvoir longtemps. Le vrai enjeu de ce chapitre 8, c'est donc bien une définition du bien et du mal en politique. Il se relie directement à cet égard au chapitre 17 à 19, en particulier avec le chapitre 17 qui s'interroge sur la cruauté et la pitié et sur l'amour et la crainte des sujets pour le prince. Ce n'est donc pas un hasard si c'est dans ce chapitre 17 justement que l'on voit revenir l'exemple de Borgia. Ce n'est pas un hasard non plus si les chapitres 17 et 19 comportent quasiment toutes les autres occurrences du mot de crudeltà, cruauté, comprise dans le prince, et si le mot de scélératesse, ne figure que dans le chapitre 8 que nous tentons d'expliquer maintenant, hormis une reprise en écho qui se trouve dans la première phrase du chapitre 9. Enfin, c'est bien dans les chapitres 17 et 18 que se trouve le présupposé, l'axiome apparent qui fonde cette conception du bien et du mal en politique, la constatation apodictique sur laquelle on a déversé des flots d'encre critique, que les hommes sont méchants, tristes. Je cite, « De ce fait, un seigneur prudent ne peut ni ne doit observer sa foi s'il lui est nuisible de l'observer et si sont éteintes les raisons qui la lui firent promettre. Et si les hommes étaient tous bons, ce précepte ne serait pas bon, mais parce qu'ils sont méchants et qu'ils ne l'observeraient pas à ton égard, toi, Étiam, tu n'as pas à l'observer avec eux. » Et jamais à un prince ne manquèrent de raisons légitimes pour colorer son inobservation. Revenons, pour aller plus loin, à un passage capital de la fin du chapitre 8 sur la distinction entre deux types de cruauté. On constate que Machiavel établit une partition entre deux usages de la cruauté. Je cite « Certains pourraient se demander comment se fit-il qu'Agathocle et quelques autres de ses semblables, après d'infinies trahisons et cruautés, pût vivre longtemps en sécurité dans sa patrie et se défendre des ennemis de l'extérieur, et que ses concitoyens ne conspirèrent jamais contre lui. Puisque bien d'autres, au moyen de la cruauté, Étiam en des temps pacifiques, n'ont pu maintenir leur état, sans même parler des temps incertains de la guerre.
Je crois que ceci provient des cruautés mal employées ou bien employées. Bien employées peuvent être appelées, si du mal il est loisible de dire du bien, fameuse incise que j'évoquais tout à l'heure, celles qui se font tout d'un coup, par nécessité de se mettre en sécurité. Et si ensuite on n'y insiste pas, mais qu'on les transforme autant que faire se peut pour la plus grande utilité des sujets. Mal employées sont celles qui, encore qu'au début il y en ait peu, croissent avec le temps plutôt qu'elles ne s'éteignent. Ceux qui observent la première façon peuvent trouver auprès de Dieu et des hommes quelques remèdes pour leur état, comme le fit Agathocle. Quant aux autres, il est impossible qu'ils se maintiennent. Les cruautés peuvent donc être bien ou mal employées. Elles sont bien employées à trois conditions. Si elles ne s'étalent pas dans le temps, si le recours à la cruauté est dicté par la nécessité, si enfin on n'insiste pas par la suite et qu'on les transforme en utilité pour les sujets. C'est au prix du respect absolu de ces trois critères que le pouvoir du prince cruel peut se maintenir, car il peut être ainsi accepté par Dieu. Autre signe de l'ironie machiavélienne, plus que concession personnelle à une quelconque forme de religiosité. Il existe donc un temps, une nécessité, un ordre de la cruauté. Celle-ci n'est jamais gratuite et personnelle, d'où le fait que l'exemple d'Agathocle soit moins négatif que celui d'Olivérote. Le premier est rappelé à cette occasion, mais pas le second. Le prince ne doit pas varier d'attitude en étant tantôt bon, tantôt méchant. En effet, le prince doit s'efforcer de commettre les cruautés, soit quand son principat est vraiment menacé de l'intérieur, dans ces moments singuliers que peuvent être les conjurations ou les tumultes, soit au début de son principat, lorsque son seul objectif doit être la prise du pouvoir. Dans ce moment circonscrit, face à cette nécessité spécifique, il n'est déjà plus un simple homme privé, mais pas encore un prince reconnu par les sujets. En revanche, il ne doit pas y recourir par la suite, quand son seul devoir en tant que prince est de veiller à mettre en place un bon gouvernement, de bons ordres, à l'image de ce que fit Borgia pour la Romagne. Il est notamment inacceptable de prendre prétexte de la moindre crise pour recourir aux cruautés. Dans les temps douteux de la guerre, dans ces tempi avers, dans ces temps contraires, qui sont toujours pour Machiavel, on le sait, la pierre de touche des bons gouvernements, ce n'est plus le temps du mal, nous dit-il à la fin du chapitre 8. La cruauté bien employée est une des composantes de l'ordre princier. Elle n'est pas justifiée par la méchanceté des hommes, mais par l'efficacité nécessaire de l'action politique. S'il en va ainsi, c'est d'ailleurs qu'il n'y a pas de bien ou de mal en soi pour Machiavel. Il n'existe que des situations historiques dans lesquelles c'est une bonne ou une mauvaise chose de se comporter de telle ou telle façon. Car ce qui compte, c'est bien l'adéquation de la façon, du modo, aux nécessités, à la qualité des temps, la qualità dei tempi. Un prince doit savoir prendre la voie du mal, je cite, mais seulement, je cite encore, si cela lui est nécessaire, nous dit-il dans le chapitre 18. Il doit d'abord comprendre le mal, souligne-t-il dans le chapitre 22, ou savoir récompenser le bien ou le mal, extraordinaire, dans le chapitre 21. Et on ne peut réduire ce choix à un constat pessimiste sur la condition humaine. Chez Machiavel, bien et mal sont des adverbes, beaucoup plus souvent que des substantifs. On fait bien ou on fait mal plutôt qu'on fait le bien ou le mal. D'ailleurs, à deux reprises, dans ce même chapitre 8, l'auteur joue explicitement sur l'articulation de l'adverbe et du substantif. Je cite. Bien employées sont celles qui, si du mal il est loisible de dire du bien, se font tout d'un coup, etc., etc. Et un prince doit vivre avec ses sujets de façon à ce qu'aucun accident, ni en mal ni en bien, ne l'oblige à varier. C'est la fortune qui, à l'occasion, est maligne pour l'auteur. Rappelons-nous les derniers mots de la lettre de dédicace du prince. Et pour César Borgia, dans le chapitre 7. Ce qui est mauvais, c'est le choix, l'elezione, la décision, le concilio, la fortune, l'action, l'opinion. Symétriquement, ce qui est bon, ce sont les actions, le gouvernement, les ordres ou les armes, les amis, les exemples, le ministre, selon les cas et les moments. Quant à la bonté, elle n'est attribuée qu'à deux hommes, le pape Léon à la fin du chapitre 11, et l'empereur romain Sévère dans le chapitre 19. Certes, un prince ne doit pas faire profession d'homme bon sous peine d'aller à sa ruine dans le chapitre 15, et il doit apprendre à pouvoir ne pas être bon dans ce même chapitre 15. Mais surtout, il doit en user et ne pas user de cette bonté selon la nécessité. Le parallèle s'impose avec les scélératesses et cruautés du chapitre 8. Rien d'étonnant donc à ce que, de façon très guichardinienne, Machiavel remarque plus loin, au chapitre 21, qu'il convient de prendre le moins mauvais pour bon. Il existe donc trois types différents de bonté ou de méchanceté. Celles qui sont absolues, substantielles et non historiques, elles sont très rares chez Machiavel. Celles qui sont ensuite relatives, ponctuelles, en situation, pourrait-on dire, ce sont les plus fréquentes. Enfin, celles qui sont apparentes et relèvent de l'opinion, illusoire et manipulée, des hommes, de la doxa. Ce sont ces dernières qui forgent les réputations, nous rappelle-t-il dans le chapitre 19, qui suscitent ces haines si dangereuses et servent à Machiavel de révélateur pour l'analyse et pour la description des actions des hommes. Restent pourtant ces fameuses références à la méchanceté quasiment ontologique de l'homme, celles que nous relevions plus haut, mais aussi celles qui sont présentes dans le troisième chapitre du premier livre des discours ou dans le livre 7 des histoires florentines, où Machiavel, rappelons-le, déclare que les hommes sont plus portés au mal qu'au bien. Pour éclairer ce point, partons du passage des discours. Si Machiavel y déclare bien que les hommes ne font jamais rien de bien, sinon par nécessité, il nous précise plus haut quelles sont les prémices méthodologiques d'une telle affirmation. Je cite. Comme tous ceux qui raisonnent du vivre civil le montrent, et toute histoire en est pleine d'exemples, il est nécessaire à quiconque met en place une république et ordonne des lois en celle-ci de présupposer que les hommes sont mauvais et qu'ils doivent toujours user de la malignité de leur esprit chaque fois qu'ils en ont librement l'occasion, etc., etc. La malignité des hommes est une sorte de précaution, en quelque sorte, qui s'inscrit dans le respect de ce qu'ont fait les historiens et les philosophes ayant réfléchi sur la vie de la cité de toute éternité. Il s'agit donc d'une hypothèse de type prudentiel, littéralement d'un présupposé, pour reprendre le terme machiavélien. On s'étonnera donc moins de voir que le texte du prince est beaucoup moins péremptoire à ce titre que ne le laisseraient supposer les citations fréquentes et répétées des deux mêmes passages des chapitres 17 et 18 sur lesquels la critique revient toujours. Quant à user de la malignité de leur esprit, les hommes ne peuvent le faire que si on leur en laisse librement l'occasion. Il s'agit d'une tension potentielle vers le mal, plus que d'une caractéristique essentielle. Et de ce fait, elle peut être corrigée par les lois et par les institutions, par gli ordini. Ces remarques montrent combien il convient de nuancer le topos critique d'une anthropologie machiavélienne négative fondée sur une vision pessimiste de la nature humaine. La dernière trace de cette historicité du mal et des usages positifs possibles des cruautés, nous la trouvons au début du chapitre 17 du Prince, où Machiavel, on l'a dit, revient sur Borgia et sur les cruautés. Elle permet de mettre en évidence l'origine et les raisons de la réflexion sur les scélérates. Nous y découvrons, dans ce début du chapitre 17, ce qui anime le propos machiavélien sur les cruautés. Borgia a eu raison d'être cruel, car il a ainsi permis l'union et la remise sur pied de la Romagne. Et, point capital, Machiavel n'en veut pour preuve que l'incapacité des Florentins entre 1505 et 1502 à être aussi efficace que Borgia l'a été pour ramener à la raison les factions se déchirant dans leur ville sujette de Pistoia. C'est donc bien l'incapacité de la République, sa faiblesse endémique, qui montre combien sont nécessaires à l'occasion les cruautés bien employées selon Machiavel. Plus tard, dans les discours, il reviendra aussi sur cette question de Pistoia et de ses factions, pour noter que, je cite, « de telles exécutions, en l'occurrence tuer les chefs des factions, qui requièrent quelque chose de grand et de généreux, une république faible ne sait pas les faire. » C'est pour cela que la dictature provisoire à la romaine, mise entre les mains du prince, peut sauver la république, mais pour cela aussi que ce chapitre 8 nous donne une des clés de lecture et une des raisons de l'écriture même du texte complet du prince. Derrière la question des usages de la cruauté, derrière les deux exemples provocateurs d'Agatocle et d'Oliverotto, c'est bien la question de la place et du rôle du nécessaire exercice de la force qui est posée, ouvrant un espace inédit dans la pensée politique. un espace où se manifeste la faiblesse structurelle des républiques. De fait, dans le bloc des chapitres 6, 7, 8 du Prince, la question de la force des innovateurs est tout à fait essentielle. La cruauté, la violence politique, pour utiliser une expression qui est peu présente chez Machiavel en tant que telle, n'est qu'une question subsidiaire et instrumentale par rapport à la question de la force. Une politique de puissance peut ainsi ponctuellement, selon Machiavel, admettre les crimes sans se faire pour autant politique scélérate et criminelle. C'est bien là une des parts d'ombre du texte machiavélien.